trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ambretta Signoret est avec nous, responsable macro et stratégie chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Ambretta.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir autour de cette table, aux côtés de Xavier Chapard. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes stratégiste chez LBPAM et Bastien Dru. Bonsoir Bastien.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Journée historique, donc 6 juin 2024, la Banque Centrale Européenne s'affranchit notamment de la Réserve Fédérale Américaine pour initier une baisse de taux après 9 mois de pause et 10 hausses de taux consécutives entre 2022 et 2023. Ombretta, quel est le sens que vous donnez à cette baisse de taux de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui?
Alors, déjà, je pense que tout le monde s'attendait à une baisse des taux sans pré-engagement de la part de la BCE pour la suite et avec des décisions futures qui seront prises réunion par réunion. Je dirais que cette prévision-là a été 100% respectée. La raison, c'est évidente, c'est que dans les deux dernières semaines, il y a eu de la matière pour les faucons. Donc, il y a deux semaines, une mauvaise surprise sur les négociations salariales. Semaine dernière, une mauvaise surprise sur l'inflation des services. Et les deux variables clés qui étaient citées à plusieurs reprises par la BCE pour justifier d'entamer, en fait, le cycle d'assouplissement monétaire. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer à l'opposé. C'est-à-dire que le cycle de désinflation n'est pas remis en cause et la BCE sait très bien qu'il y a des effets de base défavorables en ce milieu de l'année. D'ailleurs, on n'est pas exclu que l'inflation, même l'inflation sous-jacente, puisse augmenter là, dans les mois qui viennent, mais pour ensuite refluer vers la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Donc tout ça, on le connaît déjà. Mais il est clair que les données que j'ai citées, négociations salariales et inflation des services, restent élevées. Ça ne permet pas à la BCE d'être confiante pour s'engager sur des baisses graduelles. Mais des baisses graduelles, ça reste toujours raisonnable vu leurs prévisions. L'inflation revient à 2% en 2025, sur la deuxième moitié.
Deuxième semestre 2025, c'est 2% prévu par le staff de l'Eurosystème aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Ils ont repoussé, en fait, de la première moitié à la deuxième moitié. OK, mais on a toujours un chemin de désinflation à moyen terme qui est là. Il faut nuancer, je pense, les facteurs techniques, entre guillemets, de court terme.
Donc, il y aura à nouveau un moment de vérité en septembre. Là, c'est intéressant. On a vu l'Eurosystème mettre à jour les projections de la BCE en relevant notamment les perspectives d'inflation globale ou sous-jacente d'environ 10 à 20 points de base sur l'année prochaine, sur cette année et l'année prochaine. C'est pas impossible que les prévisions, les projections qui seront faites en septembre viennent peut-être retirer cette élévation des projections sur l'inflation qu'on a eue pour ce mois de juin.
C'est pas impossible. Il faudra voir
on verra
comme
les données.
La BCE, nous sommes dépendants des données.
Évidemment.
Évidemment. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, et notamment en Allemagne, on l'a vu ça sous les négociations salariales, l'Allemagne, c'est vraiment le pays qui a tiré vers le haut les négociations salariales.
Mais avec des effets one-off. Tout le monde a bien conscience qu'il y a un effet one-off important aussi dans la compensation globale en Allemagne.
Mais ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est qu'il y a plusieurs... Les négociations ne sont pas finies en Allemagne. Il y en a plusieurs étalées au cours de l'année. Et comme l'a très bien expliqué Christine Lagarde aujourd'hui, ces négociations-là sont pluriannales. Donc, 3 ans. Et ils prennent en compte le rattrapage de l'inflation passée. Et donc, il se trouve qu'on aura des
négociations... Ce sera bumpy.
Oui, bumpy,
comme elle dit.
Surtout là, à court terme. Ouais. Et ça, ce ne sera peut-être que, entre, vu le retard de publication en T4, que finalement, ces données-là indiqueront en fait la baisse, en fait, une modération des négociations salariales. Mais... Et pourquoi je dis qu'il faut nuancer, on a d'autres indicateurs. La BCE fait des sondages auprès des entreprises. Ces indicateurs-là montrent déjà une certaine modération. On a des indicateurs avancés sur les nouvelles positions en fait, ouvertes. Là aussi, on voit une modération. Mais on sait que c'est long, qu'il faut du temps.
Et donc, que la BCE veut voir le smoking gun, elle veut voir l'évidence dans les chiffres ce que les indicateurs avancés peuvent suggérer aujourd'hui sur les salaires.
Vu ce qui s'est passé en 2022, la flambée inflationniste est encore trop récente.
Le trauma est encore présent. Voilà. On a bien compris effectivement ce point-là. D'ailleurs, on notera qu'au sein du Conseil des gouverneurs et des membres du board, ils sont 26. Ça a été une unanimité quasi parfaite, à l'exception d'un membre du Conseil des gouverneurs qui, visiblement, n'a pas jugé qu'il était bon de baisser les taux à l'occasion de cette réunion du mois de juin. Xavier, est-ce que c'est juste une baisse de taux assurantielle, je le disais, symétrique à la hausse de taux assurantielle qu'on nous avait vendue en septembre 2023, pour être sûr qu'on allait bien venir à bout de l'inflation, ou est-ce que c'est quand même un peu plus ?
Alors, si on regarde juste ce qui a été dit aujourd'hui par Lagarde et le communiqué, on pourrait croire que c'est qu'une baisse assurantielle. Cela dit, moi, je pense que c'est quand même plus que ça. Et d'ailleurs, Lagarde a dit que c'était très probable qu'on soit dans un cycle de baisse, même s'il sera progressif, lent, data dépendante et tout ce qu'on veut. Ouais. Je pense quand même. Pourquoi ? En fait, la BCE, c'était très compliqué pour elle aujourd'hui. Elle a eu deux chiffres très défavorables dernièrement, alors qu'elle s'était engagée à baisser les taux. Et donc, je pense que pour négocier entre les doves et les hawks, il y a eu... il faut faire la baisse de taux là. Mais du coup, ils ont eu très peur d'envoyer un signal trop accommodant. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont retiré tous les biais vers des baisses de taux dans le communiqué, que Lagarde a refusé de dire qu'on était déjà dans un cycle de baisse de taux, tout ça. Mais je pense que si on a des données pas trop défavorables d'ici septembre, ça permettra à la BCE de continuer le cycle de baisse de taux une fois par trimestre.
On reste dans un schéma, même avec des projections, et peut-être d'ailleurs... grâce à des projections d'inflation un peu relevées, on reste dans un schéma où ne pas baisser les taux pour la Banque Centrale Européenne à l'occasion du prochain meeting trimestriel, par exemple, ne pas baisser les taux, la barre est haute.
Moi, je
pour
pense,
ne pas continuer de baisser les taux malgré, encore une fois, ces petits bumps sur la route qu'on peut avoir.
C'est ça, avec tout ce qu'a dit Lagarde aujourd'hui, les bumps sur la route, le fait qu'ils aient révisé à la hausse, mais pour le court terme, ils continuent à être très confiants sur le fait qu'on va vers les 2% l'année prochaine, ce qui me paraît raisonnable. Si, évidemment, on peut encore avoir des énormes surprises. C'est vrai que les deux derniers chiffres étaient quand même assez surprenants. Mais pour l'instant, ça ne remet pas en cause. Et elle l'a dit aussi, que la tendance à la désinflation n'était pas en cause. Et quelque chose qui est très important, pour les marchés notamment, c'est qu'elle a dit que le taux était encore très au-dessus du taux d'équilibre. On le sait tous, mais c'est quand même rassurant. Ça veut dire que même pour la BCE, il y a de la marge pour baisser les taux sans être très accommodant.
Oui. Avant de faire une erreur sérieuse de politique monétaire dans ce mouvement de recalibration, il y a un peu de marge.
Voilà, elle peut encore baisser un peu sans être déjà à l'équilibre.
Je crois que Villeroy de Gallo nous a donné un ordre de grandeur, 150-200 BP de marge par rapport à ce qu'ils peuvent estimer être le taux réel neutre aujourd'hui. Bastien, vos commentaires sur cette communication de la BCE, ce premier mouvement initié, ce qu'il implique pour la suite, et puis on viendra un peu aussi dans le jeu de la comparaison par rapport à ce que la Fed pourrait faire désormais.
C'est difficile
sur 2024.
C'est difficile d'ajouter quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'on vient de faire. Mais peut-être dans les petites choses qu'on n'a pas dites, c'est repréciser le fait que si l'inflation sous-jacente est remontée en mai, c'est aussi très probablement pour des phénomènes un peu techniques, pour des effets de base qui ne remettent pas du tout, du coup, on compte la désinflation. Notamment, on a le forfait transport en Allemagne qui est sorti du glissement annuel pour l'inflation allemande. Puis on a aussi cette fameuse histoire du forfait vacances qui dépend complètement du positionnement de Pax en avril et en mai, et qui probablement va sortir du chiffre dès le mois de juin. Donc on peut repréciser que la petite remontée qu'on a eue de l'inflation sous-jacente après 9 mois de baisse, ça fait 9 mois de baisse consécutive de l'inflation sous-jacente, c'est probablement comme un bump, comme le disait Christine Lagarde, et que ça ne remet pas du tout en cause la désinflation. Après, Pour essayer d'ajouter quelque chose, dans les prévisions d'inflation, j'essaie de les regarder donc dans le petit communiqué qui est publié quand même une heure après la conférence de presse.
Oui. Et donc, ce qui se passe entre le moment où ils publient communiqué, enfin de la décision de politique monétaire, et le moment où il y a toutes les assumptions, les évaluations et les hypothèses de leurs projections.
Et du coup, ça empêche les journalistes de poser des questions, vraiment de dire là vous faites ça et là vous faites ça. C'est quand même un peu dommage. Voilà, c'est comme ça. Donc quand on regarde bien, pour l'inflation totale, il y a quand même, ils font référence au futur de l'énergie, donc du 15 mai, et depuis le 15 mai, le prix du pétrole...
Donc c'est la date où ils ont bloqué les hypothèses, c'est ça ?
Et depuis le 15 mai, le prix du pétrole a quand même pas mal baissé, donc il y a déjà une bonne partie de l'inflation de l'énergie qu'on peut enlever, en fait, qui n'a pas trop lieu d'être. Et après, ce qui est intéressant sur l'inflation sous-jacente, pourquoi ils ont remonté la prévision d'inflation sous-jacente, vraisemblablement, c'est quand même très lié au marché du travail. Et dans les chiffres qu'on n'a pas cités, donc je suis d'accord avec vous, mais peut-être le seul truc que je pourrais ajouter, c'est le marché du travail qui continue de s'améliorer. Le taux de chômage a continué à baisser. Et là, sur tout le chemin de taux de chômage qu'ils mettent là, sur les trimestres à venir, il a encore baissé. On est déjà au plus bas depuis la création de la zone euro.
Et, enfin, si on 6,4%.
Si on faisait des séries synthétiques, on serait au plus bas depuis au moins le début des années 90. Et c'est aussi ça qui leur a fait remonter la prévision de salaire pour 2024. Et c'est ça qui fait qu'ils remontent leur prévision d'inflation sous-jacente et qu'aujourd'hui, elle était un peu plus mal à l'aise sur l'évolution de l'inflation sous-jacente. Mais, je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure et que le cycle, la phase de désinflation va continuer, ce qui permettra à la BCE de baisser ses taux un peu plus tard dans l'année. Quoi.
Ouais.
C'est ça que j'aurais pu ajouter.
Et un peu plus tard, donc, l'idée consensuelle, c'est maintenant un rythme trimestriel à partir d'aujourd'hui, de ce 6 juin, donc c'est septembre, décembre. Le risque, c'est plutôt que la BCE, à un moment, doive accélérer ce rythme-là, au cours de 2025.
On pense qu'il y a au moins 3 baisses de taux cette année de la BCE. Ouais. Donc, il y a au moins ce qu'on vient de dire, une par trimestre avec juin, septembre, décembre, ça c'est déjà fait. Mais on maîtrise assez mal finalement le chemin finalement de l'inflation sous-jacente sur la deuxième partie de l'année. Et il y a quand même tout un tas d'autres effets de base qui peuvent sortir, cette fois-ci plus favorables, qui peuvent sortir des chiffres d'inflation.
Et donc rendre encore des indices d'inflation plus résilients, enfin plus persistants.
Ça peut justement décélérer.
Accélérer,
Vite que ce qui est que les projections de la BCE sont affichées actuellement. Okay. Parce que quand on regarde la prévision d'inflation sous-jacente, c'est donc 2,8 pour 2024.
Oui.
On est à 2,9, en avril on était à 2,7, donc ça indique que, grosso modo,
il n'y a plus rien à se passer de ce point de vue-là.
Il y a beaucoup de changements de l'inflation sous-jacente sur le reste de l'année.
Ombretta, qu'est-ce que ça change d'avoir là une première baisse qui sera sans doute suivie d'autres? Enfin, on imagine tous comme ça aujourd'hui, même si la communication officielle de Christine Lagarde ne peut pas le garantir. Qu'est-ce que ça change pour la zone euro, pour le profil conjoncturel de la zone euro, pour des marchés importants comme l'immobilier, la devise par exemple, etc.?
Ça change aussi pour les actions, les marchés actions, parce que une des raisons en fait pour lesquelles les marchés actions continuent à progresser, on va dire, depuis le début de l'année, c'est aussi parce qu'ils intègrent un assouplissement monétaire à venir de la part des banques centrales. Alors c'est pas seulement la BCE, c'est aussi la Fed qui compte beaucoup, c'est indispensable pour certaines classes d'actifs dans les marchés actions. Et non seulement l'immobilier, qui est un des secteurs, on va dire, plus impactés directement par les taux directeurs. Sur la devise, je ne crois pas que le différentiel de taux de politique monétaire entre Fed et BCE soit suffisamment large en ce moment pour justifier une tendance baissière ou haussière nette de la devise, de la parité euro-dollar. Je pense que ça interviendrait seulement si on prenait en considération deux scénarios alternatifs complètement opposés. Soit, disons, une Fed qui ne baisse pas du tout les taux, mais alors ça veut dire que ça remettrait complètement en cause la désinflation. Et à ce moment-là, je ne pense pas uniquement à la désinflation aux États-Unis, mais au niveau mondial, en Europe, on va dire.
Il y aurait quelque chose de nouveau au niveau mondial qui viendrait changer complètement, renverser cette trajectoire des inflations globales. Ouais.
Ou alors le scénario complètement opposé, qu'on ne peut pas écarter non plus à 100%, qui est celui d'un atterrissage pas en douceur, mais difficile, on va dire, de l'économie américaine, qui alors ferait remonter, en fait, on va dire, la valeur refuge
d'accord.
du dollar. J'ai plutôt donc un avis plutôt neutre, en fait, sur la parité. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense que sur le débat de politique monétaire, ce qui va beaucoup, ce qui va être important, notamment pour les obligations, c'est aussi non seulement est-ce que la BCE baissera 2 ou 3 fois les taux cette année, mais surtout qu'est-ce qu'elle va faire l'année prochaine.
Ah bah oui.
Et là, je pense que on voit déjà que une des variables clés, ça va être le taux neutre. Et Isabelle Schnabel nous a très clairement dit dans un discours récent qu'ils n'ont pas encore commencé ce débat-là. D'ailleurs, Lagarde a un peu évité de répondre à la question directe.
On vient de commencer, on ne peut pas vous dire où est-ce qu'on va arriver, quoi.
Oui. Mais c'est compréhensible, hein, parce que c'est un facteur, c'est une variable qui est une
autre. C'est quand même bien d'y réfléchir au moment où on entame un cycle, quand même, j'imagine. Donc forcément, ils doivent y réfléchir.
Et puis l'incertitude est extrêmement élevée quand on fait référence au modèle, hein, et elle est encore... si je peux synthétiser, 2 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis quand on regarde les modèles. Donc, nous, en interne, on a essayé de regarder un peu tout ce qui est disponible.
L'intervalle de confiance, quand on veut mesurer le taux réel neutre en zone euro, est 2 fois plus large que
en zone euro
que ce... D'accord,
ben,
c'est très
donc,
clair.
Et quand on fait référence, on regarde l'intervalle qui, en ce moment, on est entre, on va dire... 1,5% et 2,5%, si je réduis un peu la fourchette. Hein. Et quand on se projette, on va dire, horizon 10 ans, bah, on est entre 2 et 3%. Donc, vous voyez quand même qu'on on est large. Et là-dessus, je suis sûre que le débat va s'accentuer en fait, au sein du Conseil des gouverneurs.
Et ce débat, il plaide, en tout cas pour l'instant, pour quelque chose de très progressif dans les baisses de taux. Enfin, je veux dire, quand le Conseil est réuni au-delà des arguments sur les salaires, etc. Ce tâtonnement, c'est une vraie volonté
là,
aussi du Conseil
Là, en fait, je pense pas... Il n'y a pas eu de débat sur cette variable-là, parce qu'on est dans... Comme Bastien vient de le dire, en fait, la politique monétaire est très restrictive en ce moment. Donc, on est loin du taux neutre. Mais quand il va s'agir de déterminer combien de baisses on doit faire, on doit se rapprocher de la neutralité... C'est là où cette variable-là...
On a quand même 100-150 BP de marge de manœuvre sans qu'on soit obligé de se poser des questions à s'arracher les cheveux pour l'instant. Mm-hmm. OK. Bon, sur ces questions de taux neutre et puis de degré de divergence aussi entre la Fed et la BCE.
Alors, c'est vrai sur les modèles. Après, qu'il y a une plus grande incertitude en Europe qu'aux US.
Juste, on rappelle, taux neutre réel, c'est le taux, non frictionnel. Sans friction pour l'économie.
L'économie accélère pas, ralentit pas. L'inflation accélère pas, ralentit pas. On est tout à l'équilibre. Donc, c'est quelque chose qu'on voit jamais, mais on essaie.
Enfin, on le sait après, quoi.
Et le problème, c'est que les banquiers centraux, ils veulent pas dire le chiffre parce qu'on sait pas. En fait, c'est quelque chose d'inobservable. Donc, il faut essayer d'estimer. Le seul problème, c'est qu'en vrai, il faut, comme tu disais, il faut en avoir un en tête parce que
bien
savoir si aujourd'hui on est restrictif.
Il faut un cap.
Donc il faut un cap, exactement. Donc eux, ils en ont un en tête. Donc ce que je disais, c'est voilà, si on regarde les modèles macro, tout ça, qui estiment les taux neutres, il y a une plus grande incertitude en Europe qu'aux US. Mais ces modèles, il faut voir qu'ils sont principalement développés par des économistes américains, des différentes Feds locales notamment.
Ouais, ça crée un biais.
Et donc c'est plus précis pour les US que pour l'Europe.
J'entends.
Et puis ils ont un historique beaucoup plus long.
Pas important.
Que ce qu'on a pour la zone euro. En vrai, je dis ça parce que je pense que l'incertitude, en fait, elle est beaucoup moins forte en Europe qu'aux US sur le niveau du taux auquel on va atterrir. Et notamment quelque chose dont tu parles souvent, c'est la politique budgétaire. Vu ce qui se passe dans la politique budgétaire aux États-Unis, il y a une grande incertitude de à quel point ça rajoute de la demande et du coup, à quel point la Fed doit contrebalancer ça. Et donc, ça rentre dans le calcul du taux neutre. Si vous avez un déficit budgétaire beaucoup plus gros, ça veut dire que la Fed doit maintenir durablement des taux plus élevés.
Ah, mais j'entends
très alors qu'en Europe, à cause ou grâce, on pourra en discuter longtemps, des règles budgétaires et de tout ça, au final, si je prends la zone euro dans son ensemble, la situation budgétaire est plutôt saine. Je veux dire, dans son ensemble. Hein. Il y a quelques pays, évidemment, qu'on pourrait pointer du doigt. Mais Oui. On regarde, il y a des estimations du FMI là qui ont été faites.
On a retrouvé des excédents.
En avril.
Mais bien sûr.
Il montre que le resserrement budgétaire qui est pour la zone euro globale, qui est planifié pour les trois prochaines années, il permet de stabiliser la dette et tout ça. Même
d'accord.
avec la hausse des taux. Donc
d'accord.
Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis.
Non.
Ce qui n'est pas du tout le cas si je regarde
d'accord.
la France toute seule.
D'accord.
Mais au niveau de la zone. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau de taux d'équilibre...
Il n'a pas bougé.
Il est sûrement plus élevé qu'avant, que par le passé. Mais si... Enfin, on est quand même assez tous d'accord qu'il est entre 2 et 2,5. Quoi.
D'accord. Ce qui... OK.
Alors qu'aux États-Unis, oui. franchement, je ne mettrais pas ma main à couper entre
2,5 et 3,5, 4.
Suivant la politique budgétaire,
d'accord.
suivant plein de choses.
Ah ouais, bien sûr.
Donc c'est plutôt favorable, et je trouve, et c'est pour ça aussi qu'on a, nous, on préfère les actifs européens, parce que je trouve qu'il y a moins d'incertitudes aujourd'hui sur la dynamique conjoncturelle des États-Unis. On en parlait sur le risque de ralentissement plus fort, sur l'inflation et la surchauffe, et sur le taux d'équilibre au final. Il y a quand même moins de.
Voilà. Moins d'incertitudes, voilà. Donc moins de risque de volatilité, donc ça plaide effectivement pour un cas d'investissement en Europe un peu renforcé de ce point de vue-là.
Exactement.
Ouais, j'entends. Bon, sur la question des policy mix, US, euro, est-ce que ça fait partie effectivement aussi de la divergence qui se matérialise quand même? Et puis je veux bien qu'on dise un mot spécifique de la Fed, parce que oui, on a noté que en zone euro, le dernier print d'inflation n'était pas très très bon. Le dernier print d'inflation aux États-Unis, il a plutôt un peu rassuré après des mauvais rapports.
Oui.
Et puis surtout, il y a tout ce qui se passe sur le marché du travail américain que vous observez d'ailleurs donnée après donnée, Bastien.
Donc, pour la partie inflation, donc il y a eu une année 2023 qui a été merveilleuse, avec une inflation qui sortait toujours comme attendu ou plus bas qu'attendu.
Oui.
Et les quatre premiers rapports de l'année 2024 ont été désastreux, c'est-à-dire tous au-dessus des attentes, sauf donc le dernier, là, le cinquième, qui est sorti en ligne avec les attentes, donc qui a un petit peu rassuré. Ce qui nous fait un core PCE, donc l'inflation sous-jacente que suit le plus la Fed, à 2,8. Bon, ça jouait à
3. On aurait pu être à 2,7.
C'était tout proche, c'était à 2,7. C'était le troisième chiffre après la virgule. Bon, voilà, c'est la vie.
Bon, on en est là.
On en est là. Et justement, ce que disait Christopher Waller, là, le membre du board, là, dans l'un de ses discours, c'est j'ai envie que la désinflation soit tellement forte qu'on arrête de regarder le troisième chiffre après la virgule. Parce que là, on ne fait que regarder ça et c'est un peu ridicule, c'est un peu grotesque. Quoi.
On perd un peu tout le monde, quoi. Mais, effectivement.
Mais bon, voilà. Donc là, on a une inflation qui est en train de se rapprocher tout doucement, malgré tout, de la cible de la Fed. C'est encore trop élevé pour que la Fed se dise « Allez, c'est bon, on y va ». C'est pas assez élevé pour qu'il remonte les taux directeurs. Et en gros, on commence à être dans les zones d'inflation où finalement on peut commencer à regarder beaucoup plus le marché du travail, et c'est ce qu'il avait dit notamment lors du dernier FOMC, et ce qu'il avait dit c'était que s'il y avait une dégradation inattendue du marché du travail, ça pourrait précipiter des baisses de taux. Donc là, bon, je pense pas qu'on soit encore complètement là-dedans, à voir demain avec le Job Report, mais toutes les données qu'on a déjà, par exemple cette semaine, on a les dernières données du mois d'avril, donc avec les ouvertures de postes, là ça tombe de façon quand même très verticale. On a le nombre de postes ouverts par chômeur qui est tombé à 1,2, donc on revient au niveau qu'on avait en 2018-2019.
Pré-Covid.
Pré-Covid.
Bien sûr.
Donc ce qui n'est pas un mauvais chiffre, hein, franchement, par rapport aux 20 dernières années, c'est franchement pas mal. En revanche, la direction, elle est très verticale, ça ralentit quand même très rapidement. On avait vu ça sur les salaires, puis on commence à le voir aussi sur les créations d'emplois, notamment l'ADP qui s'était sortie hier, donc qui commence à ralentir un peu plus. Et on commence à arriver dans les zones où la Fed peut commencer à se poser des questions. On n'a pas du tout une catastrophe sur le marché du travail, mais il n'y a pas forcément un ralentissement qui est très maîtrisé. Le marché du travail, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser facilement. Et ils peuvent commencer à penser que la vitesse de dégradation est suffisante pour éventuellement baisser les taux.
Donc, ça va se ressentir la semaine prochaine dans la communication de l'emploi.
Communication, ouais. Je pense que...
Modulo, évidemment, le rapport qu'on aura demain. Hein, mais quand même, il y a aussi une série de chiffres à côté qui vont dans ce sens-là.
Oui, je pense qu'on devrait commencer à en parler. Là, ils avaient, sur les derniers mois, de toute façon, pas envie de baisser les taux. Donc pas envie de commencer, enfin d'amener de la nuance dans l'évaluation économique, commencer à parler des révisions des créations d'emplois, des trucs comme ça, ou enfin voilà, ils voulaient pas aller dans les petits détails. Là maintenant, on sent que on commence à arriver dans la zone où ils commencent à regarder les petits détails lors du dernier FOMC à Jérôme Powell qui parle de la composante emploi de l'ISM service, composante emploi de PMI, composante emploi de l'ISM manufacturier. D'habitude, il n'en parle jamais quoi. Et donc là, on voit qu'il commence à amener un peu de nuance finalement dans son évaluation du marché du travail, et donc ça montre que l'évolution du marché du travail va leur faire baisser les taux à un moment donné là.
Et comme vous le disiez, Ombretta, le degré de divergence, d'écart d'anticipation de politique monétaire, il s'est quand même un peu resserré entre la Fed et la Banque Centrale Européenne là.
Oui, les marchés, encore il y a un mois à peu près, voyaient un fort décalage entre Fed et BCE. Là, il se trouve que depuis deux ou trois semaines, on a en fait un croisement des chemins. D'un point de vue conjoncturel, on a des données plutôt décevantes ou en dessous des attentes aux États-Unis. C'est le contraire en zone euro. Et c'est la même chose pour l'inflation. Donc, bon, on ne peut pas dire que l'inflation a surpris à la baisse, mais elle était en ligne avec les attentes aux États-Unis. Et non, elle a surpris à la hausse en zone euro. Donc, c'est pour ça que les marchés changent aussi d'opinion, réajustent les anticipations. Maintenant, moi, je trouve que... oui, Powell a ajouté cette nuance sur le marché du travail pour justifier les décisions futures de politique monétaire. Mais je trouve que la donnée d'avril ne suffit pas du tout pour donner de la confiance.
Après trois ou quatre rapports décevants, il en faut plus qu'un seul rapport pour restaurer cette confiance
là,
perdue.
C'est un petit pas dans la bonne direction, mais vous pouvez tracer différents scénarios possibles. Si on a tous les mois 0,2% sur l'inflation, vous avez une inflation à peu près stable d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça suffit pour la Fed ? Peut-être pas, si on n'a pas un signal de faiblesse qui arrive sur le marché du travail.
C'est ça. Pour l'instant, comment tu regardes l'équation effectivement pour la Fed,
parce
Xavier,
que pour l'instant, si on regarde l'inflation sous-jacente ciblée par la Fed, on stagne à 3%. Ou juste en dessous de 3%. Là, ça veut dire aussi que la Fed, la semaine prochaine, elle va devoir réviser à la hausse sa prévision d'inflation pour cette année. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'ils vont faire les équilibristes comme la BCE aujourd'hui ?
La BCE a baissé ses taux en relevant ses prévisions d'inflation.
C'est toujours possible, mais je pense qu'à moins d'avoir vraiment une grosse déception sur le chiffre d'emploi demain, ou une grosse surprise, parce qu'on a aussi le chiffre d'inflation la semaine prochaine, avant la Fed aux États-Unis. Donc, il faudrait vraiment des énormes surprises pour les...
Je crois que c'est le même jour, d'ailleurs.
Réannonce
une... C'est pendant le meeting de la Fed. Ils ont le CPI, c'est le premier jour.
C'est le mardi.
Et la communication est le mercredi, d'accord, ok.
Et donc, ils auront le chiffre. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut un peu faire bouger. Mais je pense que c'est trop tôt pour la Fed pour vraiment changer de discours. Par contre, les marchés peuvent être rassurés par une Fed qui dit et qui prévoit dans les dot plots quand même des baisses de taux d'ici la fin de l'année.
Comment ça peut se passer ? Parce que après, à partir de quand on rentre dans un calendrier trop politique pour la Fed, ou en tout cas dont la Fed aimerait bien ne pas être trop présente, quoi. Est-ce que ça veut dire la semaine prochaine il n'y aura pas de baisse de taux? Est-ce que juillet peut être une option? Est-ce que septembre, à 15 jours, 3 semaines des élections, ce serait le bon moment de le faire? Ou est-ce qu'il faut de toute façon à un moment se dire que ça ne pourra se faire ensuite, que le premier mouvement en tout cas ne pourra se faire qu'après les élections?
Je ne crois pas que la Fed va être vraiment bloquée par les élections.
D'accord.
Nous, notre scénario, c'est une première baisse en septembre et une deuxième en décembre.
D'accord.
Je pense
si les données le justifient, la Fed n'aura pas de problème à initier son mouvement à ce moment-là. D'accord.
Historiquement, les élections n'ont pas beaucoup joué. Ouais. Je pense que la politique, ça va être beaucoup plus embêtant pour la Fed l'année prochaine.
Ouais, c'est ça.
Suivant qui est élu, parce que là, il va y avoir des interférences. Et puis la politique budgétaire qui risque aussi de ne pas aller dans le bon sens.
Ouais.
Donc les craintes pour la Fed, pour nous, c'est surtout l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elle pourra faire ? Et les scénarios, là, il est très large, en fait.
Ouais.
Entre une Fed qui ne peut plus baisser ses taux parce qu'on aurait des promesses électorales qui sont mises en œuvre et qui sont très inflationnistes.
Et c'est de part et d'autre, ou c'est plus Trump que Biden, de ce point de vue-là ?
C'est plus Trump que Biden.
Plus que Trump que Biden,
Powell, il a quand même montré en 2019 qu'il n'avait pas peur de de Trump, quoi. Je rappelle quand même que Trump avait tweeté qu'il posait la question qui est le plus grand ennemi des États-Unis. Est-ce que c'était la Chine ou est-ce que c'était Jérôme Powell? Terrible. Il avait quand même posé cette question sur Twitter et il ne s'était jamais démonté, il ne s'était jamais couché. Il avait toujours été resté droit dans ses bottes et il avait mené la politique qu'il voulait mener. Et il y avait quand même un moment où Trump réclamait que la Fed mette des taux négatifs comme la BCE, alors que légalement...
Il était jaloux des taux négatifs en zone euro.
Et il réclamait ça, et
Mais moi, c'est ce que je comprends. Structurellement, il est quand même plutôt baissier taux. Trump vient de l'immobilier, c'est quand même ce qu'il va demander à Powell s'il est élu. Il faut baisser les taux, il faut nous mettre les taux accommodants, quoi.
Sauf que s'il gagnait vraiment, c'est pas forcément ça qui se passerait, parce que je pense qu'une présidence Trump, ça serait très inflationniste. Donc après, évidemment,
ça perturberait considérablement la conduite de la politique monétaire telle qu'on l'imagine aujourd'hui.
Je pense que ça change pas mal de choses, parce qu'il y a eu des estimations qui ont été faites sur l'impact économique des hausses de droits de douane dont il parle, c'est-à-dire les 60 points sur les importations chinoises et les 10 points sur toutes les importations. Alors 10 points, ça paraît pas beaucoup, mais les importations en points de PIB, c'est quand même super important, quoi. Le chiffrage, c'était que l'impact économique serait 4 fois plus fort que les hausses de droits de douane qu'il y avait pu y avoir en 2018-2019. Ouais. Donc c'est quand même important, et on peut imaginer, moi je pense que s'il y avait ces hausses de droits de douane, il y aura un effet sur le dollar qui serait monumental, qu'est-ce qui s'était passé en 2018-2019 quand il y avait eu les hausses de droits de douane de Trump? Il y avait eu dépréciation du renminbi qui avait fait très fortement monter le trade weighted dollar. Ça, c'est quelque chose qui serait très négatif pour les marchés actions.
Ce serait une ambiance un peu stagflationniste, quand même.
Plus ce qui ses projets sur l'immigration. Alors là, après, ce qu'il veut faire, est-ce qu'il va faire ce qu'il dit, est-ce qu'il va faire ce qu'il dit, le quart de ce qu'il dit, ou rien du tout ce qu'il dit, on n'en sait rien.
On verra. Pays comme l'Italie ou le Brexit, qui ont connu leur moment populiste, de ce point de vue-là, ils ont vite compris que sans immigration, le système tenait pas, quoi.
Et là, quand il parle de ramener chez eux 20 millions de personnes en situation irrégulière, je pense que ça ferait des petits trous sur le marché du travail et que les pénuries de manœuvre feraient qu'il y aurait beaucoup d'inflation, quoi.
Oui. Bon, je ne sais pas, le risque Trump... Est-ce que la BCE, en initiant ce mouvement, c'est aussi une manière indirecte de se couvrir contre un risque Trump qui pourrait, rebattre les cartes, relancer l'idée inflationniste ou stagflationniste aux États-Unis?
Je ne dis pas
que c'était l'objectif de cette baisse de taux, mais est-ce que, par voie de conséquence, ça permet quand même aussi de se dire, on a initié le mouvement et... On verra ce qui se passe le 5 novembre aux États-Unis, mais nous, on est déjà partis dans quelque chose qui nous convient, quoi.
Non, je pense que la BCE a regardé sa conjoncture économique.
Elle n'a pas ce genre d'arrière-pensée quand elle prend sa décision.
Mais d'ailleurs, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que Powell non plus n'a pas l'intérêt pour non seulement pour les États-Unis, mais pour lui-même et pour sa réputation de penser aux élections quand il s'agit de prendre une décision de politique monétaire. Pour l'instant, il a fait un travail que aucun autre gouverneur a réussi à faire. S'il arrive à attendre...
Quelle est la part de chance? Quelle est la responsabilité de la Fed? Mais en tout cas, il est à la tête d'une Fed qui, pour l'instant, pilote quelque chose d'assez exceptionnel.
Et c'est pour ça que nous pensons que si on n'a pas de mauvaise surprise sur l'inflation, septembre est probablement la date plus probable pour avoir la première baisse des taux. Alors, par contre, novembre, je ne sais pas, parce que je pense que...
6-7 novembre, c'est le lendemain. Est-ce qu'on aura les résultats définitifs les promesses des candidats, etc. Voilà. Mais septembre, c'est 17-18 septembre. Trois semaines avant, quoi.
Et puis, on verra en fonction du résultat des élections ça va chambouler ou pas le scénario économique, parce que effectivement, je pense qu'il n'est pas seulement question de voir qui sera le président élu, mais aussi le résultat du Congrès.
Bien sûr.
Alors, pour certains sujets, comme sur les tarifs, ce n'est pas important, parce que c'est le président qui va déterminer quel tarif mettre. Mais pour d'autres sujets, comme l'immigration, c'est le vote de Congrès qui compte. Ouais. Et pour d'autres aussi, comme la politique budgétaire. On n'aurait pas eu de Inflation Reduction Act si le Congrès était divisé. Donc c'est aussi ça qu'il faudra regarder. Et sur la politique budgétaire, oui, effectivement, Trump est un peu plus laciste, si on peut utiliser ce mot, peut-être pas le plus propre. Mais Biden, dans tous les
cas. En termes de niveau de déficit, j'ai pas l'impression que Trump. Alors, chacun a sa méthode, Il y a des baisses d'impôts ou des chèques ou de la dépense de l'autre. Mais en termes de déficit à l'arrivée, c'est pas un écart.
Il y a des études qui montrent que ce soit les démocrates ou les républicaines, en fait, il n'y a pas les mêmes règles budgétaires qui sont imposées en Europe. Donc, à un moment ou à l'autre, c'est un sujet qu'il faudra regarder, mais il y a quelque chose dont il faut tenir compte. Toutes les mesures de santé, en fait, qui rentrent dans le Medicare, MediAct, seront remises en cause dans quelques années si quelque chose n'est pas fait à ce niveau-là.
D'accord.
Ça pourrait être quelque chose qui va réveiller en fait les Américains sur la politique budgétaire. Pas immédiatement, d'ici quelques années.
Non, mais est-ce qu'un Biden aussi n'aurait pas quand même la volonté d'envoyer un signal sur la capacité qu'il aurait s'il était réélu à maîtriser, à contrôler la trajectoire de déficit et d'endettement aux États-Unis dans le cadre d'un second mandat.
Je pense que c'est pas sa priorité. C'est sûr. Ouais. Il est à la politique industrielle, les dépenses, l'inflation de réduction d'Act et tout ça. Cela dit, il faut quand même dire qu'il est un peu plus orthodoxe que Trump, même d'un point de vue budgétaire. C'est pour ça que lui, il est pour...
Traditionnellement, on estime que c'est les républicains qui sont les orthodoxes budgétaires, mais là, dans ce cadre-là...
Ça fait une trentaine d'années que c'est pas vrai.
D'accord.
C'est que les républicains baissent les taxes et les démocrates essayent à peu près, en montant un peu les taxes sur les riches et les entreprises...
Là où il y a de la marge,
De rééquilibrer un petit peu. C'est Clinton, le dernier, qui avait sorti des budgets à l'équilibre. Après des années d'efforts, on n'en est pas là du tout. Je ne pense pas que Biden fera des gros efforts budgétaires, mais c'est quand même un peu plus équilibré ce que propose Biden. Et en plus, il a théorisé le fait qu'il valait mieux faire des gros déficits dans son premier mandat pour éviter le retour d'un Trump qui, selon lui, pose un risque sur la démocratie plus important que sur l'économie.
Le pari politique des Bidenomics, quoi. Voilà. It's the economy stupid à la fin, et c'est bon.
Exactement.
Et les sondages ne donnent pas forcément raison à cette stratégie à ce stade.
On ne pense pas que ça ait beaucoup marché, mais bon, il l'a essayé. Dans un deuxième mandat, a priori, il aurait moins de raisons d'utiliser. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus orthodoxe, quoi. Et par contre, le risque Trump, sur la BCE, c'est plutôt un risque haussier-taux, en fait. C'est un peu ce que disait Lagarde. Ouais. Les risques sur l'inflation, c'est aussi les tensions géopolitiques, des chocs au niveau global et des droits de douane qui seraient aussi, parce qu'on serait obligé d'y répondre, et donc forcément, ça serait aussi inflationniste pour la zone euro.
Bon, rendez-vous donc le 12 juin pour la communication de la Réserve fédérale américaine, mercredi prochain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Ombretta Signori, responsable macro et stratégie chez Ophi Invest Asset Management, Xavier Chappard, stratégiste chez LBPAM, et Bastien Dru, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management.